Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. Cette semaine, on part pour la côte nord-ouest du Pacifique en direction de la Colombie-Britannique et surtout de la Grande Terre, l'Alaska, en compagnie d'une journaliste radio et autrice française qui, depuis des décennies, sillonne l'Amérique du Nord et les recoins de son histoire coloniale, prenant ainsi à revers les mythes hollywoodiens de la conquête et donnant à entendre surtout des voix autochtones longtemps silenciées, mettant en lumière ainsi la richesse de leurs cultures amérindiennes, mais aussi le passé et le présent de leur lutte. Marie-Hélène Fraissé, c'est son nom, a longtemps produit pour la radio française France Culture, des émissions comme L'Échappée Belle, Appel d'air ou Tout un monde, des programmes où la rencontre avec l'autre et le reportage avaient toute sa place. Et je dois vous avouer qu'à si loin si proche, on ressent forcément une certaine parenté, sinon une fraternité ou sororité avec elle. Cette semaine, je suis donc très heureuse de la recevoir pour la première fois dans l'émission, je crois, pour suivre le cabotage en solitaire qu'elle s'est accordé il y a quelques années déjà, de Vancouver à Anchorage. Un voyage qu'elle nous livre aujourd'hui dans un récit paru chez Albin Michel, Alaska, l'ultime frontière. Dans cette échappée pas tout à fait solitaire, on croise alors l'ombre des explorateurs James Cook ou La Pérouse, l'écrivain naturaliste américain John Muir ou le photographe Edward S. Curtis passé par là, des Russes, chasseurs de loutres aussi, des chercheurs d'or, prospecteurs d'hier et d'aujourd'hui, ou encore l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss. Avec au centre, bien sûr, des communautés autochtones fascinantes et résistantes, dans un jeu de masque où l'on comprend vite que l'ancien et le nouveau monde ne sont pas ce que l'on croit. À l'ombre enfin, d'immenses totems, sculptés en forme d'aigle, de corbeau ou d'oiseau tonnerre, un animal mythique chez beaucoup d'Amérindiens. Mais d'abord, suivons Madame Fraissé dans l'oiseau de métal qui l'emmène à destination.
Mesdames, Messieurs, ici votre commandant de bord. Nous survolons actuellement l'Inland 6 du Groenland à une hauteur de 30 000 pieds, soit 9 200 mètres. Notre vitesse est de 875 km/h.
Canal 5 de la télécommande, la trajectoire de vol s'affiche. Son tracé luminescent taillade le Labrador, la baie d'Hudson, les grandes plaines, immensité sous-peuplée que l'avion promet d'avaler d'une traite avant d'enjamber les rocheuses, en direction du Pacifique, là où les noms rêvent tout haut. Oregon, Nevada, Colorado, Alaska. Ce carrefour des mondes, extrême nord-ouest de l'Amérique, point ultime de l'avancée du monde russe à l'est. J'ai longtemps désiré m'y rendre en des temps plus heureux, puis après, encore et toujours. Ce sera cette fois, pour de bon et seul. Pour une fois, seul.
Marie-Hélène Fraissé, bonjour.
Bonjour.
Alors, seule, pour une fois seule, ce sont les derniers mots qu'on vient d'entendre dans cet extrait tiré de votre livre, Alaska, l'ultime frontière. Seule, enfin pas tout à fait, puisque comme je le disais en préambule durant ce voyage, vous n'avez de cesse de provoquer la rencontre, de faire des rencontres avec les autochtones notamment, mais pas seulement. Et puis aussi de convoquer l'histoire et le passage d'illustres anthropologues notamment ou explorateurs européens dans ces contrées du nord-ouest américain. Des lieux, on l'a entendu, qui vous attirent depuis longtemps. Pourquoi ? Pourquoi l'Alaska ? Pourquoi cette côte nord-ouest et ces immensités solitaires, pour le coup, qu'elles augurent ou inaugurent, si je puis dire ?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Alaska, est, on le sait bien, est une terre très peu peuplée, encore très sauvage, où la nature est toute puissante. Et c'est une terre autochtone, c'est une terre amérindienne et inuite, puisque 15% de la population est autochtone. Donc j'ai rêvé aussi de ce carrefour des mondes, puisque c'est l'endroit où on l'oublie souvent. L'Amérique, enfin les États-Unis, sont à touche-touche avec la Russie. Le détroit de Bering ne fait qu'entre 60 et 70 kilomètres. Et puis c'est la magnificence du Pacifique et de cette côte, avec ces glaciers qui, vous savez, déboulent de la montagne pour tomber dans la mer. C'est absolument magique. Alors, je l'avais survolé, puisque j'ai fait plusieurs reportages au Yukon, donc côté canadien, dans cette même région. Et dans ces petits avions, vous savez, qu'on utilise pour faire des sauts de puce, quasiment pour aller chercher son pain. Donc, voilà que je survole, on dépasse la frontière, je survole l'Alaska. Et là, je survole le parc de Wrangell-Saint-Elias. Et le pilote me dit, vous savez, toutes ces montagnes qu'on voit là, il y en a une sur 10 qui a un nom. Alors ça, ça m'a fait rêver parce qu'on souffre tous actuellement, je pense, dans nos imaginaires, du fait que la Terre est trop, justement, nommée, explorée, peuplée, investie par l'humain.
Et colonisée aussi, parce que c'est ça que ça
oui,
dit,
c'est
les
ça.
Noms des lieux.
Elle est surchargée d'hommes. Et alors, le fait que cette nature sauvage existe est quelque chose qui est profondément rassurant parce qu'on en a besoin.
Et vous voilà donc passagère dans ce passage de l'intérieur, cette Inside Passage, cabotant donc d'île en île depuis la côte canadienne vers l'Alaska, où c'est vrai, la pureté, la grandeur des paysages, avec ses fjords, ses canaux, ses glaciers plus haut quand on remonte, vous offre, et c'est ce qu'on se dit, peut-être une certaine consolation. Vous voyez peut-être venir la consolation des grands espaces. C'est ce que vous êtes allé chercher là-bas ?
Oui, je cherchais un peu ça parce que à l'époque, j'avais perdu, je venais de perdre l'homme que j'aimais. Et donc, je rêvais depuis toujours de ce voyage. Et je voulais vivre aussi, et je crois que c'est quelque chose que je pourrais recommander à toutes les personnes qui ont perdu un compagnon ou une compagne, de pratiquer un voyage et de le goûter seul. C'est-à-dire de trouver... pour moi seule, un mode relationnel avec des gens de rencontre que j'avais envie de rencontrer et trouver de la joie, malgré tout, de nouveau. Alors j'ai découvert dans ce voyage en solitaire que c'est une formule absolument formidable. Quand on est seul, vous êtes disponible et les gens le sentent.
Alors vous avez employé un mot important qui est finalement au cœur de votre démarche depuis toujours et puis de votre regard aussi sur le monde, c'est celui de rencontre. Puisque c'est vrai que, on l'a dit, vous creusez ce sillon amérindien depuis longtemps quand même, depuis des décennies. Et à ce sujet, au sujet des Premières Nations et des Européens, de cette rencontre, de ce contact entre ce prétendu nouveau et ancien monde, vous parlez de rencontre, vous ne parlez pas de découverte. Parce que ce n'est pas la même chose du tout.
Ah oui, bah de toute façon, la découverte n'existe pas. On a prétendu en Europe qu'on découvrait un continent. Ce continent était peuplé depuis des millénaires et l'idée même de découvrir est presque scandaleuse. C'est comme si, je ne sais pas, un Africain vient en Europe et dit qu'il découvre l'Europe. Non, il se rend en Europe et il entame des échanges avec les autochtones. Donc ça, effectivement, j'ai beaucoup lutté et également pour qu'on renverse le regard, c'est-à-dire avoir le point de vue autochtone. Et ça, je pense que dans la pensée postcoloniale, c'est extrêmement important. C'est essayer de se mettre à l'intérieur de la tête et du cœur de toute personne qui « nous », entre guillemets, nous a vu venir. Ça veut dire que cette histoire de la rencontre, on la lit d'une toute autre manière à partir du moment où on renverse le point de vue. Évidemment, ça a des conséquences politiques. Alors, ce qui me plaisait aussi en Alaska et en Colombie-Britannique, c'est comme c'est une côte qui a été explorée très tardivement. Au XVIIIe siècle, elle était à peine aperçue et elle a commencé à être vraiment investie au XIXe. Donc, les personnes que j'ai rencontrées autochtones faisaient partie de populations qui n'ont jamais été déplacées, qui sont chez elles depuis des millénaires, même si elles ont subi des dépossessions et les malheureuses, terribles maladies, parce que c'est ça le drame des populations autochtones de l'Amérique, c'est les épidémies foudroyantes. Alors, ces personnes-là, en tant que groupe ancré dans leur territoire, n'ont aucun souci pour vous dire « je suis chez moi ».
Ce qu'ils sont,
ce qu'ils sont.
Et justement, sur cette côte nord-ouest, pour les Kwakwaka'wakw, qui sont donc un peuple qui vit sur l'île de Vancouver et sur d'autres îles aussi environnantes, cette rencontre, vous l'avez dit, avec le colon européen va se muer quand même très vite en dépossession des lieux, puisque le colon rebaptise à tour de bras, ça c'est une grande habitude qu'il a, et puis une dépossession de l'histoire, de la culture, avec au centre, et c'est un pan passionnant de votre récit, la cérémonie dite du potlatch que pratiquent justement les Kwakwaka'wakw. Qu'est-ce que le potlatch, Marie-Laine?
Alors, c'est une cérémonie du don, puisque ce sont des sociétés où le puissant, puisque ce sont des sociétés quand même très hiérarchisées, hein, et il ne faut pas les idéaliser, hein, ils avaient des esclaves.
Ils pratiquaient les radias.
Ah oui, oui, non, il faut surtout se méfier de cette attitude. Mais il y avait une règle, c'est que manifester sa puissance, sa richesse, c'était par le don. Alors, le potlatch était une cérémonie où il fallait distribuer le plus possible pour faire en quelque sorte valider sa situation hiérarchique au sommet de la pyramide. Alors c'était incroyable et c'était assorti aussi de certains abus du point de vue occidental, parce qu'il y a même eu, lors du potlatch, il y avait même eu autrefois dans le passé des sacrifices d'esclaves. Donc les pouvoirs publics anglo-canadiens d'un côté et nord-américains, états-uniens de l'autre, donc ont décidé qu'il fallait bannir cette cérémonie. Mais cette cérémonie était l'occasion de créer des masques absolument extraordinaires. C'était d'une richesse cérémonielle absolument inouïe. Et on a interdit. Et en interdisant ça, on a cassé une partie très importante de la culture.
Sauf que les Kwakwaka'wakw vont tout faire pour récupérer ces objets rituels effectivement associés à cette cérémonie de prestige interdite. Extrait sonore tiré du Oumista Museum d'Alert Bay, suivi d'un témoignage de l'ancien Donald Assou que vous avez rencontré, Marie-Hélène Fraissé, à Quadra Island. Une archive INA France Culture tirée de la série de reportages que vous avez réalisé durant ce voyage. Une série diffusée dans votre émission Tout un monde.
La loi sur les Indiens interdit le potlatch au Canada de 1885 à 1951. Notre peuple fut accusé et jugé pour avoir assisté au potlatch du chef Dan Cranmer en 1921. Nos chefs signèrent un document de la cour et ils s'engagèrent à ne plus organiser de potlatch jusqu'à modification de la loi, afin que les gens n'aillent pas en prison. 20 chefs refusèrent de signer et ils furent emprisonnés. La collection du potlatch fut prise à notre peuple en application de cet accord illégal. La plupart de nos trésors sont rentrés chez eux, abrités au Oumista, à Alert Bay et Cape Mudge.
When James Seaweed got back here,
lorsque James Seaweed est revenu d'Ottawa, ils se sont mis à parler du retour des objets du potlatch. Pratiquement tout le monde était en faveur de cela. Il y a eu des discussions et James Seaweed a demandé aux gens du musée contre quelle somme ils s'étaient appropriés les objets du potlatch. 1200 dollars, lui a-t-on répondu. Donc James Seaweed a dit, bah, très bien, demain, je serai là. Faites venir une équipe de télévision et je vous ferai un chèque. Et ainsi, vous serez dédommagé. Ils ont refusé.
C'est ce qui s'est passé. Around 65.
C'était en 65, je crois bien.
In order for it to be returned,
pour que les objets du potlatch reviennent, on nous a dit qu'il fallait un bâtiment qui aurait toutes les caractéristiques d'un musée pour abriter les objets. Donc c'est ainsi qu'on arrive à cette notion de bâtiment pour protéger les objets du potlatch. En réalité, cela nous a été imposé. Ils nous ont dit, pour que les objets du potlatch reviennent, il faudra un bâtiment. C'est ainsi que nous sommes devenus un peuple muséal.
Marie-Hélène Fraissé, cette lutte entamée, on l'a entendu, dès les années 60 par les anciens pour le retour de la Potlatch Collection, résonne finalement particulièrement aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup aussi du retour du patrimoine africain sur le continent et des objets pillés pendant la colonisation française ou européenne plus largement, avec aussi, comme l'a dit Donald Assou, cette obligation faite aux propriétaires qui réclament le retour de ces objets d'avoir un espace muséal capable de les accueillir. C'est un argument qu'on adresse souvent aussi aux Africains. Comme si on se disait qu'ils ne pouvaient pas décider seuls de la destinée de leur patrimoine. Vous en pensez quoi de cet argument-là ?
Je pense qu'il y a toujours un risque que les objets, s'ils sont restitués aux familles, que ces objets soient vendus. Ce sont des familles qui ne roulent absolument pas sur l'or. Et une boîte pliée en bois de cèdre aujourd'hui, mais ça vaut des dizaines de milliers d'euros si elle est d'époque, mettons, 19e. Donc il peut y avoir la tentation de perdre de ces objets. Donc maintenant, ces objets sont propriété collective. Évidemment, ça a pris du temps, puisqu'il fallait construire un bâtiment. De Nassau donc, faisait partie des groupes qui sont allés visiter les collections. Des musées, British Museum, les musées canadiens. Et ils ont constaté, au moment où ils sont allés voir les collections, qu'en plus, il en manquait, parce qu'il y avait eu des détournements d'objets. Donc, une fois qu'on avait inventorié ce qui restait, d'ailleurs, parmi ces objets détournés, il y en a certains qui ont été acquis par Claude Lévi-Strauss, qui a restitué, comme il y a eu beaucoup de restitutions d'un certain nombre d'intellectuels, etc. Donc, c'était assez compliqué, parce que restituer purement et simplement à des familles, à des individus, ça aurait été synonyme de disparition. En même temps, il fallait restituer, parce que ces objets ont été saisis dans des conditions tout à fait inadmissibles en fonction de notre regarde aujourd'hui, si vous voulez, mais c'est pas pour ça qu'il fallait tout restituer. Donc, c'est un dossier extrêmement complexe et parmi les restitutions, il y a surtout un autre secteur qui est extrêmement sensible aujourd'hui, ce sont les ossements, parce que les prédations, si j'ose dire, des scientifiques au 19e siècle et au début du 20e, vous savez, c'était encore à but à alibi scientifique. Alors, on prenait des os. Il y a eu, par exemple, chez les Haïda, des tombes qui ont été ouvertes et on a saisi, pour des enquêtes scientifiques X et Y, on a saisi des ossements. Et ces ossements étaient stockés en vrac, dans des sous-sols de musées. Donc, pour les descendants, c'était absolument insupportable, cette idée que ça dormait dans la poussière des musées. Donc c'est un immense chantier qui couvre les États-Unis et le Canada. Il y a eu des lois de restitution, les choses sont en route. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout restituer en vrac sans prendre des précautions.
Alors justement, vous avez parlé des Haïda. Vous êtes allé chemin faisant justement vers cet archipel Haïda Gwaii, où vous avez rencontré Andy Wilson, responsable Haïda des villages du parc national. Et il vous parle justement de cette question des dépouilles. On écoute une archive INA France Culture tirée encore de votre série de reportages dans l'Inside Passage.
Le rapatriement, ça consiste à se lancer dans un processus très simple. À un moment, il y a pas mal de gens de mon âge qui se sont dit, maintenant ça suffit. On ne va plus permettre à qui que ce soit de venir nous retirer quoi que ce soit. Par exemple, les dépouilles de nos ancêtres nous ont été retirées. Et nous, notre priorité, ça a été de les rapatrier, de les sortir de ces musées, de ces universités qui s'en étaient emparées pour faire revenir nos ancêtres. C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans. Et les gens nous disaient, oh non, le rapatriement, ça ne se fera pas. Ben nous, on a dit, mais si, on va faire revenir nos ancêtres chez nous, point final. Donc on a rapatrié plus de 500 dépouilles. Et puis on a organisé une grande cérémonie de deuil, parce qu'il n'y avait jamais eu de reconnaissance publique de ce qui avait eu lieu. Aujourd'hui, nos ancêtres sont dans nos deux cimetières, à Skidigate et à Massett. Pour les enterrer, on a décidé de les empiler les uns sur les autres.
Faire revenir les ancêtres et leurs dépouilles, c'est un autre aspect, vous en avez déjà parlé, Marie-Hélène Frahi, c'est important, crucial, de ce qu'on a pu appeler la guérison, on peut appeler ça aussi un travail de deuil que doivent mener les Amérindiens, ou en tout cas auxquels ils sont confrontés. Et à ce sujet, je voulais citer Francis Geffard, que vous connaissez forcément, grand américaniste français qui dirige la collection dans laquelle vous publiez. Il dit que les Indiens sont confrontés à un deuil impossible, celui d'un pays qui fut autrefois le leur. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, bien sûr. Il suffit d'imaginer, vous habitez la Bourgogne ou la Bretagne et vous avez été chassé de votre territoire ancestral. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes, vous êtes un errant, vous n'avez plus de racines. On a regroupé très souvent donc, des communautés qui ne se connaissaient pas, voire qui étaient ennemies. Il y a une immense souffrance. Et comment voulez-vous vous reconstruire après, quand on vous a expliqué que vous êtes un sauvage, que vos croyances ne valent rien, et que, après tout, les dépouilles de vos ancêtres, ce n'est jamais que des ossements. Ça n'a pas de valeur, si vous voulez, cette auto-dévalorisation. Donc, on a enseigné dans les pensionnats aux petits autochtones, où on leur disait « tu ne dois plus être un petit indien, parce qu'être un petit indien, c'est être un être inférieur ». On leur savonnait la bouche quand ils parlaient leur langue d'origine. Souvent, ces enfants, d'ailleurs, arrivaient, ne parlaient que la langue maternelle, que la langue donc, de leur famille. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais ou de français. Donc, c'est une histoire extrêmement cruelle, en fait, et que, heureusement, on commence à lire en adoptant le point de vue amérindien et pas du point de vue du dominant qui est détenteur des vraies valeurs de l'humanité, si vous voulez. Mais c'est tout un travail de très longue haleine qui commence à se faire dans une sorte de douleur, mais qui est le nécessaire pour qu'un jour ou l'autre, l'identité autochtone amérindienne, mais c'est vrai pour tous les continents. Vous savez, là, je viens de travailler sur l'Australie, sur un livre magnifique publié par une autrice aborigène, mais métisse, blanche, aborigène. Et on comprend que cette douleur, elle est partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est le déni de sa propre valeur. C'est quelque chose de très pernicieux qui se transmet de génération en génération avec les phénomènes de dégradation sociale, parentale, qui vont avec. Alors, toute cette guérison qui va peut-être pouvoir se faire va prendre plusieurs générations. Mais elle passe aussi beaucoup par la culture, parce qu'en se réappropriant donc sa culture, ses chants, sa langue. Chez les Haïda, par exemple, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi à faire le lien entre les derniers anciens qui parlaient vraiment la langue et qui racontaient vraiment les histoires comme on les raconte dans le monde amérindien. C'est-à-dire que ça dure une semaine. Vous voyez, toutes les nuits, on raconte l'histoire. Donc, ils ont réussi à faire le lien entre ces anciens et les jeunes qui vont à l'école dans leur langue ancestrale maternelle. Et on assiste, j'avais rencontré une jeune maman qui était de Tsimshian, sur la côte nord-ouest toujours, côté Colombie-Britannique, et qui était très fière de ses filles. Elle avait trois petites filles merveilleuses qui avaient entre 5 ans et 12 ans. Et elle m'a dit, voyez, notre langue, mes filles la parlent mieux que moi. Moi, je ne la parle presque pas. Elle était, vous savez, de la génération intermédiaire qui a été déculturée.
Et dans cette acculturation, il y a quand même aussi des mouvements contraires. C'est ça qui est assez intriguant, et on le comprend bien dans votre livre. C'est qu'à la fois, on acculture, on oblige justement, comme vous l'avez dit, à ne plus parler la langue d'origine. Et en même temps, il y a un vent contraire, c'est qu'il y a une fascination pour les masques, pour les expressions culturelles autochtones. Et là, justement, au sujet des Haïda, qui sont un peuple de la mer, de la haute mer, avec des immenses canaux, mangeurs de vagues, en même temps, on fait des expositions au Musée de l'Homme et on met en avant la grandeur amérindienne, ce qui est sûrement pétri de bonnes intentions, mais il y a des vents contraires. Il y a la fascination aussi des surréalistes pendant l'entre-deux-guerres pour cet art sauvage. Donc finalement, on se dit qu'à la fois, ils ont été victimes de cette acculturation et en même temps, l'Europe ou le monde occidental s'en est emparé pour le faire exister dans ces musées, dans un espèce de corpus culturel acceptable, mais dans des vitrines européennes.
Oui, c'était peut-être plus facile pour nous parce que les revendications autochtones au Canada et aux États-Unis et dans toutes les Amériques, au fond, elles avaient un impact matériel et économique sur les gouvernements auxquels ces revendications s'adressaient. En Europe, d'une certaine manière, c'est relativement confortable.
Parce que ce ne sont pas nos colonies.
Non, ça veut dire qu'il n'y a rien à restituer pour nous. Parce que,
La France a beaucoup à faire, excusez-moi.
La France a beaucoup à faire, mais pas grand-chose dans le monde amérindien, sauf en Guyane. Mais enfin, c'est toujours très confortable de donner des leçons quand on n'a rien à perdre. Il faut se méfier de ça. Or, les revendications des autochtones sont à la fois territoriales et culturelles et économiques, avec des phénomènes de des demandes de compensation qui sont parfaitement justifiées, parce que ce sont des peuples dépossédés qui ne sont jamais décolonisés. Il faut prendre conscience de ça.
Il y a eu beaucoup de décolonisation, mais pas sur le sol américain.
Non. Alors, ils sont minorisés. Écoutez, c'est 3% de la population des États-Unis et c'est 5% de la population du Canada qui a le statut amérindien. Alors, c'est pour ça que cette côte nord-ouest est fascinante, parce que 15% de la population, là, ça crée une vraie présence. Vous vous promenez dans n'importe quelle ville, ville si j'ose dire, des bourgades en Alaska, parce qu'en dehors d'Anchorage, ce sont des petites villes, vous voyez des visages amérindiens, vous sentez que vous êtes en terre autochtone. Et il y a cette fierté qui est très... moi, qui me touche beaucoup, parce que c'est la fierté de ceux qui ont été impactés, mais qui ont résisté et qui maintenant savent que plus personne ne pourra vraiment détruire leur culture et les reléguer dans le passé. Alors, comment ça va se négocier avec la modernité? C'est tout le problème.
Mais justement, on va en parler. On va aller en Alaska, toujours auprès des autochtones. Mais tout de suite, place à une protest song américaine, ce qui va forcément vous parler. Marie-Hélène Fraissé, vous qui avez publié en 1973, c'est ça?
Ah oui, oui.
Ouh là là. Un livre sur ces fameuses chansons de révolte de la jeunesse américaine. Et 73, c'était aussi l'année de l'occupation symbolique de Wounded Knee par les militants de l'American Indian Movement, qui va marquer les esprits. Et puis 1973, c'est aussi l'année où le chanteur d'origine Mi'kmaq, Will Dunne, chantait « I pity my country », soit « Je plains mon pays ».
I pity the country, I pity the state, and the mind of the man who thrives on hate. Smaller the lies of cheats and of liars, of bigoted news press, fascist town crier. Deception annoys me, deception destroys me, Bill of Rights throws me chills, they all know me. Frustrated are churchmen, saving a soul man, Tinker the tailor, the colonial governor. They pull and they paw me, they're seeking to draw me away from the roundness of the light. Country, I pity the state and the mind of a man who thrives on hate.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
À 23h, le petit ferry assurant la liaison entre l'archipel d'Aïdaguaï et le continent a largué les amarres. Une ébauche d'aurore boréale balayée avec d'imperceptibles crépitements sonores le fond du ciel violacé et brun. Les aigles et les corbeaux étaient couchés. J'ai pris un temps, accoudé au bastingage pour dire adieu à ces îles heureuses, oubliées du monde, que je ne reverrai probablement jamais. La mélancolie de ce probable « plus jamais » était apaisante, délicatement précieuse. Le voyage était-il en train, comme je l'espérais, de me changer, de me faire ouvrir les mains et épouser sans arrière-pensée un temps désormais compté, dont il fallait s'empresser de goûter toutes les nuances? Le port de Prince Rupert émerge lentement de l'eau, au petit matin, emmitouflé de brume. Vers le nord, la côte se fragmente en d'innombrables îles, détroits, chenaux, marquant l'extrémité méridionale de l'Alaska, ce singulier État américain, électron libre de l'Union, acquis sur le tard auprès des Russes, pour une somme dérisoire.
Dishes you was Simsad was Swam God, oh, no, Varkanges, Compartar,
Un chant russe de Promishleniki et vos mots à vous, Marie-Hélène Fraissy, et nous voilà à présent en Alaska, après avoir dépassé Prince Rupert. L'Alaska, cette ultime frontière que vous nous racontez dans votre dernier récit, paru récemment chez Albert Michel. L'Alaska, le plus vaste, mais aussi le dernier État, il faut le dire, à être entré dans l'Union des États-Unis d'Amérique. Car avant, évidemment, c'est pour ça qu'on a entendu ce chant aussi, l'Alaska était russe.
Oui.
On disait l'Amérique russe. On l'oublie peut-être un peu.
Ah, complètement, oui. C'était la ruée vers l'Est. Il y a eu la ruée vers l'Ouest aux États-Unis et en partie au Canada aussi, même si ça a été ça a concerné moins de monde, si vous voulez. Donc, ce mouvement inverse, ce mouvement un peu en miroir, a été mené par les Russes. Alors, beaucoup moins grand nombre, parce qu'il n'y a jamais eu le phénomène de migration de population.
C'était pas une colonisation de peuplement.
Non, c'était l'exploitation. On savait qu'au bout de la Sibérie, loin, loin vers l'Est, il y avait une autre terre qui était très riche, notamment en loutre de mer, c'est-à-dire en fourrure, des fourrures qui se vendaient très cher.
L'or doux.
Oui,
l'or doux. Je ne connaissais pas cette expression.
Ben, on l'a utilisé pour le castor aussi, qui a fait la fortune du Canada. Et cette loutre avait cette propriété de fournir de la fourrure au mandarin chinois. Donc c'était facile, on était dans le monde pacifique, donc il suffisait de retraverser un petit peu plus loin vers le sud en direction de la Chine. Et donc c'était un commerce qui a mobilisé un certain nombre de trafiquants, traiteurs de fourrure sibériens, qui passaient facilement de l'autre côté. Ils ont épousé des femmes autochtones et ça a donné une population très largement métissée, presque à 100%, qui parlait une sorte de patois, mélange de langues, des diverses langues autochtones et de russes. Et les gens, les vieux, parlent encore une sorte de sabir russo-autochtone. Un soir, d'ailleurs, j'ai assisté à ça. J'étais invitée chez un vieux monsieur, c'était à Kodiak, et il avait le samovar. Vous voyez, il m'a offert du thé avec le samovar. Donc, on oublie que cette Amérique russe a eu son heure de gloire. Ça a duré à peine un siècle.
Et comment ça s'est passé justement pour les autochtones de cette côte nord-ouest, côté Alaska cette fois, cette colonisation russe?
Ça a été très dur aussi.
Aussi dur que celle menée côté
oui,
américain.
Oui, parce que les hommes étaient recrutés de force pour aller chercher la loutre. Et quand ils étaient recrutés pour faire cela, donc ils ne partaient plus chasser pour leur famille. Donc il y a eu des famines dans les familles de toute la côte. Il y avait l'usage du fouet pour ceux qui obtempéraient. Non, ça a été brutal. Mais comme toujours, il y a eu aussi des histoires singulières. Il y a eu aussi des personnages moins cruels. Il y a eu des vraies histoires d'amour. L'histoire est complexe. Quand on se balade en Alaska, d'abord, la plupart des autochtones sont orthodoxes. Dans toutes les villes, les églises orthodoxes, donc avec, vous savez, leur coupole, sont présentes. L'empreinte russe, curieusement, alors qu'elle a duré peu de temps, est encore très perceptible.
Et puis finalement, en 1867, l'Alaska est vendu une bouchée de pain aux Américains et adhère donc à l'Union en 1959. Et dans votre livre, Marie-Hélène Fraissé, Chemin faisant de Juneau à Kodiak, on découvre le statut particulier des autochtones de l'Alaska. Un statut décidé dans les années 70. Alors à l'époque, en plein boom des exploitations minières et pétrolières en Alaska, une terre qui finalement se révèle extrêmement riche, on écoute une archivina France Culture tirée de votre série de reportages.
Et puis en 1971, il fallait trouver un accord territorial, parce qu'il était question de mettre en place un pipeline entre la baie de Prudhoe et Valdez, pipeline d'environ 3000 km, mais pour y parvenir, il fallait surmonter ce problème des droits territoriaux des Indiens dans la région. Et pour bâtir ce pipeline, il fallait cet accord territorial, donc. Par conséquent, en 1971, il a été décidé de signer un accord, mais sans créer un programme de type réserve tel que l'on voit dans les 48 États des États-Unis. Ils se sont dit, on va utiliser un modèle différent. En partie parce que certains des territoires des réserves étaient très très pauvres, et ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose de différent pour créer un modèle économique différent pour l'autonomie des autochtones, pour qu'ils soient indépendants et puissent subvenir à leurs propres besoins. En 1971, le Congrès a voté la loi sur les droits des autochtones d'Alaska et a créé des sociétés par action, un petit peu comme des sociétés tout à fait ordinaires, et les actionnaires sont les autochtones. Il n'y a pas d'actionnaires en dehors des autochtones, et tous les membres des tribus touchent les dividendes que paye l'entreprise à partir de ses différentes activités, et puis il y a d'autres investissements que nous faisons aux États-Unis.
Marie-Hélène Fraissé, on vient d'entendre Rick Harris de la Native Corporation Silaska, que vous avez rencontré donc à Juneau durant votre voyage. Silaska, ça c'est une compagnie assez fascinante. Il n'y en a pas qu'une, d'ailleurs il y en a 13, qui sont issues de cette loi de 1971 dont il a parlé.
Oui, parce que c'est au départ, il y a 12 sociétés par action autochtones et on en a rajouté une 13e et ça s'en dit long sur l'éthique autochtone, amérindienne et inuite. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient parties, qui avaient le statut autochtone au départ. Et ils se sont dit, c'est pas juste, donc on va rajouter une 13e société, justement, pour ceux qui sont partis très loin.
Pour les autochtones de l'étranger.
Voilà. Et il y a aussi une très jolie clause dans cette formation des 13 sociétés autochtones, c'est que certaines sont très riches, d'autres sont pauvres. Et celles qui sont très riches sont celles du Nord, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le North Slope, c'est-à-dire la pente du Grand Nord. C'est là où sont tous les gisements de gaz, de pétrole. Donc, ce sont des sociétés milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé qu'on redistribuerait. C'est-à-dire que dans ces 13 sociétés, les sociétés riches redistribuent à celles qui sont moins favorisées, qui vivent, par exemple, de la pêche ou un peu du bois, et qui vivent plus pauvrement. Et ça, je trouve ça assez étonnant. Et à ma connaissance, c'est exceptionnel dans l'histoire de l'économie qu'on crée comme ça un pack de sociétés autochtones au sein desquelles les plus riches redistribue aux plus pauvres qui ne sont pas de la même ethnie, qui ne parlent pas la même langue.
Donc c'est un modèle à la fois hyper capitaliste, parce que c'est aussi ça que représente...
Ce qui a été critiqué,
voilà,
d'ailleurs.
Cette loi de 71,
par ailleurs.
C'est aussi une façon d'assimiler aussi les autochtones et de les faire entrer effectivement dans cette ère hyper capitaliste, avec une redistribution, des dividendes...
Mais c'est eux qui gèrent.
Mais c'est eux qui gèrent. Et en plus, et c'est ce qu'on découvre dans votre récit, à mesure que, pareil, vous cheminez à la rencontre notamment des Tlingit, toujours à Juneau, c'est que cette loi et ce modèle-là hyper capitaliste et rentable va aussi contribuer au renouveau culturel des communautés autochtones. On écoute Rosita Whirl, une activiste Tlingit qui organise des stages de motivation pour les jeunes autochtones, un projet financé par Silaska. Et Rosita vous a emmené à un de ces stages.
Il y a 14 ans, on a lancé un programme de langue. Il n'y avait aucun enseignement de la langue dans nos écoles. On ne l'enseignait même pas à l'université, le Tlingit. Mais on a signé un contrat avec l'université. J'ai commencé à y enseigner en attendant qu'on trouve des maîtres, des formateurs. Et puis, on a démarré ce qu'on appelle le Tlingit Festival sur 2 ou 3 ans. On a réuni 250 de nos anciens. L'idée, c'était de leur apprendre l'importance de connaître notre langue, parce qu'on leur avait dit que s'ils voulaient réussir, ils devaient apprendre l'anglais exclusivement. Donc, on a dû expliquer à nos anciens que, eh bien, ce n'était pas vrai. Je crois que ce que ça leur apporte, eh bien, c'est une image positive d'eux-mêmes, l'estime d'eux-mêmes. Imaginez, pendant des années, on vous a répété que votre langue, votre culture autochtone, eh bien, doit être réprimée, refoulée. À ce moment-là, on va développer des attitudes négatives. par rapport à cette culture, par rapport à soi-même. Donc, on leur apprend combien nous avons à offrir pour eux-mêmes et pour le monde entier.
Marie-Hélène Frayssé, comment est-ce que vous envisagez ce renouveau culturel qui est financé, adossé sur l'exploitation des terres? Puisque c'est une terre très riche, l'Alaska, vous l'avez dit. Un coffre-fort, même à un moment, vous essayez, je crois, dans votre livre, de citer, de faire un inventaire des richesses. Et en fait, vous n'allez pas jusqu'au bout, tellement il y en a. Or, argent, fer, charbon, molybdène, bois, et j'en passe. Gaz, cuivre, pétrole, bien sûr. Donc, il y a quand même une menace aussi extractiviste. Ça, les autochtones en sont conscients?
Oui, bah, c'est l'objet de profonds et parfois douloureux débats entre eux.
Au sein des communautés.
Parce qu'au sein des communautés, il faut d'une part faire rentrer l'argent et d'autre part veiller à maintenir un environnement de qualité pour les générations futures. Alors justement, Rosita World, qui est une femme extraordinaire, donc qui travaille au sein de Sea Alaska, qui est basée à Juneau, donc la minuscule capitale de l'Alaska, et elle est très consciente de ça. Et donc, il y a des arbitrages qui sont à faire. Par exemple, cette région-là, derrière Juneau, qui appartient au Tlingit, comporte des forêts très riches, avec beaucoup de bois de qualité. Et évidemment, toute la réflexion doit mener la communauté à exploiter ces terres, mais à le faire d'une certaine manière pour ne pas faire des coupes à blanc. Donc il y a une gestion de la forêt qui est discutée collectivement avec forcément des disputes. Comme dans toute collectivité, il y en a qui sont pour le maintien à 100%, d'autres qui sont pour une exploitation beaucoup plus forcenée des forêts. Mais ils le font collectivement et ils votent. Donc, et s'ils veulent geler l'exploitation forestière, ils peuvent geler l'exploitation forestière. Alors, vous savez, ce sont des peuples qui avaient, par rapport à la forêt, une relation cultuelle. Quelqu'un qui abattait un arbre devait s'excuser devant l'arbre, le remercier. Vous voyez comme dans ces cultures-là, on remercie un animal quand on le chasse, qu'on le tue et qu'il donne sa fourrure et sa viande, on le prie. Et il y a des arbres comme ça qui étaient des « begged for trees », c'est-à-dire des arbres auxquels on demande d'avoir la générosité de se donner et qu'on remercie. Moi, je trouve ça assez étonnant. Alors, pour répondre un peu plus à votre question, donc évidemment, ils ont gardé un certain nombre de terres, mais toutes ces négociations ont débouché sur le fait que le territoire qui leur est accordé maintenant, évidemment, est plus petit que le territoire qu'ils fréquentaient, puisque dans la pensée amérindienne, on n'est jamais propriétaire, on est usufruitier. On a l'usage. Par exemple, le long de ces rivières à saumon, ces magnifiques rivières à saumon, eh bien, chaque clan se voyait attribuer, mais pas la propriété d'une partie de la rive pour aller pêcher le saumon, mais l'usage de tel endroit, de tel tournant de la rivière à tel autre, etc. Bon. Donc, on a un droit d'usage. Et ce droit d'usage se module, se discute et fonctionne d'énormément de choses. Donc, pour passer au droit de propriété tel que nous le concevons, nous, ça a été aussi tout un travail culturel.
Et puis parce que au bout de l'usage, il y a, et vous l'avez dit, le partage avec la communauté.
D'abord, je pense que la première leçon qu'on peut aller chercher dans ces sociétés, c'est le fait qu'elles durent et qu'elles renaissent. Je pense que c'est le phénomène le plus frappant, le fait que toute une série de sociétés qu'on donnait pour archaïques comme en voie de disparition, reprennent vie. Ça, c'est une chose assez extraordinaire qui montre bien qu'il y a un certain nombre d'institutions fondamentales qui résistent à, disons, à beaucoup de pressions extérieures, notamment la pression du monde blanc. Je crois par ailleurs, ce qui est important, c'est l'écho que ces sociétés ont trouvé parmi nous. Ce qu'on est allé chercher dans cette société, c'est peut-être le lien avec la nature, mais aussi peut-être le sens de la communauté. J'ai l'impression que la façon dont nous avons instauré la production, la grande industrie, la grande technique, a eu pour effet, finalement, d'éliminer de partout la relation sociale, de déchirer, je dirais, ce qu'on a fait pendant les derniers siècles, c'est déchirer avec des couteaux les tissus sociaux. Et ce qu'on va, je dirais, chercher auprès des sociétés indiennes comme auprès d'autres, si vous voulez, un peu le secret de ce qu'est une société vivante. Ça me paraît, il y a un attrait très fort de la vie.
Marie-Hélène Fraissé, cet attrait de la vie, ce sens de la communauté que vient de décrire le philosophe et anthropologue français Serge Moscovici dans une archive qui date un peu de 1973, je me suis dit, c'est ce qui vous a toujours amené finalement vers les Amérindiens d'Amérique du Nord, dans ce voyage, le dernier, comme dans tous les autres.
Il y a un sentiment de guérison, de réparation. Tout d'un coup, vous comprenez, que notre regard de découvreur, entre guillemets, est totalement faux. Et ensuite, vous découvrez, alors de manière plus intime, moins intellectuelle, et on le sent bien à travers ce très beau témoignage là qu'on vient d'écouter, que je ne connaissais pas, on sent très bien cette guérison intérieure que peut donner la rencontre avec les, justement ces sociétés qui sont encore en lien. C'est-à-dire pas cette hiérarchie du plus riche, du plus intelligent, mais
c'est pas la compétition.
Une vraie volonté d'être ensemble, cette attention portée à l'autre, sans commisération, sans sentiment de supériorité. Ce sont des sociétés aussi conflictuelles, bien entendu, il ne faut pas du tout les idéaliser. Mais ça a quelque chose d'un peu guérisseur pour un Européen ou une Européenne de se trouver face à cette espèce de chaleur, si vous voulez, qu'on ressent dans ces sociétés-là. Et vous savez qu'autrefois, les navigateurs emportaient des captifs. Ils prenaient des gens sur le rivage au XVIIe ou XVIe siècle. Ils embarquaient des autochtones, parfois consentants, parfois pas consentants, et ils venaient en France, en Angleterre. Et une chose qui les choquait, et ils l'ont dit de manière très claire, c'est très intéressant ces récits de captifs autochtones, parce qu'à l'époque, on a recueilli leurs témoignages. Ils ont dit que ce qui les choquait, c'était qu'il puisse y avoir des endroits où des gens mangeaient à leur faim et même à l'excès et gâchaient de la nourriture, pendant qu'au même moment, dans la rue, il y avait des mendiants, des gens qui ne mangeaient pas à leur faim. Et pour eux, alors ça, c'était l'inhumanité. C'était vraiment pour eux la barbarie.
Donc on en revient à cette inversion du miroir. Le barbare, le sauvage n'est pas forcément celui qu'on croit.
Tout à fait. Renversons le regard, regardons les autres. D'ailleurs, c'est le travail des anthropologues. Quand on lit les livres de Claude Lévi-Strauss, de Philippe Descola, de tous les anthropologues et ethnologues, les gens qui sont allés sur le terrain, il y a toujours cette émotion de la rencontre. Et ce regard que les autres portent sur nous et qui nous remettent en question. Et ce regard est salutaire. Nous ne sommes plus détenteurs de l'humanité avec un grand H et des valeurs humaines. Nous sommes une civilisation qui a pris tel cours, qui s'est infléchie vers tel modèle et qui n'est peut-être pas le modèle avec un grand M qui reste à discuter.
Une civilisation parmi d'autres, finalement. Merci Marie-Hélène Fraissé. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier récit, Alaska, l'ultime frontière, paru en France aux éditions Albin Michel. Sur notre site, vous retrouverez d'autres références des ouvrages de Marie-Hélène Fraissé. Merci à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour leurs archives. Merci également à Anthony Rossignol-Ripper pour sa lecture. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète.